Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour et bienvenue dans Sois gentil, dis merci, fais un bisou, le podcast des petites filles sages qui ont arrêté de l'être. Cette semaine, j'ai deux bonnes nouvelles à t'annoncer. La première, c'est que mon invitée du jour n'est autre que Bérangère Krief, comédienne, humoriste et autrice que j'adore et que j'admire depuis ses débuts il y a 8 ans au Petit Théâtre du Bout. Hashtag les vrais savent. La deuxième bonne nouvelle, c'est que ce podcast est sponsorisé. Un immense merci à la Maïf, premier partenaire à nous avoir fait confiance pour sponsoriser un épisode de Sois gentil, dis merci, fais un bisou. Tu peux retrouver toutes les offres de la Maïf sur leur site internet. Je te mets un lien dans les show notes de l'épisode. Moi par exemple, depuis que je vis seule, je flippe toujours à l'idée de m'enfermer dehors. Mais si jamais ça t'arrive, pas de panique. Le dépannage serrurerie est inclus sans supplément dans le contrat d'assurance jeune de la Maïf. C'est eux qui paieront la facture. Et place à l'épisode de cette semaine avec Bérangère Krief.
Bérangère Krief, merci beaucoup.
Merci à toi Clémence, c'est trop cool.
Je suis très très heureuse de faire cette interview avec toi, car je suis une énorme fan de la
première. Mais comment ça se fait? Je ne suis pas au courant.
Donc, on rigole parce qu'on s'est rencontrés. Enfin, j'ai rencontré Fab le jour où je t'ai rencontré.
Ouais.
À l'époque, tu débutais le stand-up dans le One
Woman
Show.
Ouais, stand-up One Woman Show. Mon premier spectacle, en tout cas, c'était dans une petite salle dans les bas-fonds de Pigalle, Pigalle la nuit. Et donc, je jouais c'était dans le Peep Show, hein, dans l'ancien Peep Show.
Ouais.
Donc scène ronde, miroir au mur.
Miroir au mur et au plafond.
Au plafond, rideau pailleté, scène qui tourne avec des dalles lumineuses. Enfin, c'était à la fois rigolo et sordide.
Et c'est d'ailleurs le spectacle que tu commençais en sous-vêtements, non?
Oui, dans ce bel endroit. Et comme, tu sais, la scène était vraiment ronde, les gens étaient tout autour. Et je disais, il y a des gens qui me verront de face et... Attends. Non, je disais, toi tu me verras, y en a qui me verront deux faces, mais toi tu me verras deux fesses au mec qui me voyait derrière.
Et donc ça c'était en 2010.
Ouais, 2010, voilà. On s'est rencontrés en 2010. C'était il y a 8 ans mon pote. Hein.
Exactement, et aujourd'hui tu es à l'affiche du film L'École est finie,
oui.
Qui va sortir
le 11 juillet.
Le 11 juillet, que j'ai eu la chance de voir en projection presse. Et bah, vraiment bravo, je te trouve excellente dedans, j'ai beaucoup ri. Tu portes le film vraiment, c'est la première fois que tu joues le premier rôle?
Adopter un veuf, c'était avec André Dussolier, quoi. Puis on était un quatuor de comédiens avec Julia Piaton et Arnaud Ducret. Et là, je suis très seule. Enfin, le personnage déjà est seul puisque c'est une prof donc qui va vivre, qui est mutée. Et souvent les profs sont mutés dans un endroit qu'ils n'ont pas choisi. Donc ça, j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça fou en fait. Et je pense que comme on se marie plus tard, qu'on a moins d'enfants tôt, du coup on est vraiment obligé parce que c'est le seul truc qui fait que tu peux rester dans ta zone, c'est d'avoir des enfants ou d'être marié. Et donc tu sais que c'est la vraie histoire, qu'il y a une prof qui a vraiment écrit un livre et tout.
Oui, c'est adapté d'un roman.
C'est même pas un roman, c'est une meuf qui a écrit un blog. En fait, elle racontait ses histoires elle était tellement choquée par ce qui se passait dans sa classe qu'elle en a fait un blog et c'est devenu un livre. Et c'est ce qui a inspiré le film. Donc moi, j'ai rencontré cette prof. Et bref, donc du coup, je joue cette prof qui est propulsée d'une vie citadine à la campagne totale. Et donc elle, voilà, les profs avec qui elle va travailler, ses élèves qui sont très différents de ce qu'elle a connu, et puis elle vit chez un couple qui est joué par Catherine Osmalin et Patrick Chenet, qui est un peu chelou avec des animaux empaillés, c'est un truc un peu glauque. Donc
c'est
voilà.
C'est un peu chelou, mais ça ressemble beaucoup à chez mes grands-parents. Hein.
Oui, ça peut ressembler à chez quelqu'un, mais c'est une ambiance un peu chasse et pêche.
Oui, totalement. Et alors c'est vraiment l'histoire d'une jeune prof qui est très parisienne, ancrée à Paris avec un peu la carrière toute tracée puisqu'il y a des contacts au ministère qui peuvent lui permettre d'avoir l'affectation qu'elle veut et qui se retrouve propulsée à la campagne et donc choc culturel dans ce milieu. C'est un peu l'inverse de ton histoire, non? Toi, c'est plutôt t'es montée à Paris et t'avais pas grand-chose dans la valise.
Oui, c'est vrai, c'est complètement l'inverse. Moi, j'étais en campagne, j'allais marcher dans la forêt avec ma famille, tout ça, dans un truc très... très cocooning et tout. Et je suis arrivée à Paris. Bah, c'est la même solitude, en fait. Je crois que où que t'ailles, quand tu te retrouves tout seul dans un univers que tu connais pas. Moi, quand je suis arrivée à Paris, t'avais pas les portables, la géolocalisation. J'étais chez ma cousine et je me rappelle de me dire, bon, ok, alors qu'est-ce que je peux faire? Je vais aller au ciné. Mais c'est où le ciné? Tu vois, j'avais un plan, mais... Enfin, comment tu faisais pour trouver l'adresse du ciné, quoi? C'était entre l'annuaire, les pages jaunes et Internet, quoi. Et je me rappelle me sentir mais minuscule dans cette ville, de me dire mais j'ai peur. Ma mère me disait tu prends le métro. C'est vrai que tout le monde prend le métro hyper tard à Paris. Et tout le monde disait tu prends le métro. Oh là là, tu prends le métro. Ma mère avait trop peur, donc j'osais plus prendre le métro. Enfin, donc c'est vrai que c'est complètement l'inverse. Mais le résultat elle-même, c'est la grande solitude.
On va pas brûler les étapes, on va reparler de ta carrière et de ton arrivée à Paris. Mais avant ça, la première question que je pose toujours à toutes mes invitées, c'est quel genre de petite fille tu étais quand tu avais 7 ans?
Quand j'avais 7 ans, écoute, j'étais en primaire, qu'est-ce que j'étais? Moi, j'ai, contrairement à ce que souvent on pense, j'ai été très bonne élève, j'étais très studieuse, j'étais très disciplinée. C'est-à-dire que je déteste quand il y a des règles. Enfreindre la règle, c'est pas un kiff du tout pour moi, ce qui me pose problème des fois maintenant. Mais en tout cas, j'étais très discipline, très sage. Voilà, j'étais à l'école, j'étais à l'écoute. J'avais beaucoup de copains, copines. J'étais pas, j'aimais bien. À mon anniversaire, il y avait des garçons et des filles. C'était très, voilà, j'aimais bien la compagnie des garçons. J'aimais bien voir mes copines. Je faisais pas de trucs de genre, en fait. Je pense que il y avait un truc comme ça déjà où on est tous copains, quoi, tu vois. C'est, on est une grande famille de des CP. J'avais un petit frère à la maternelle qui lui était plus petit, il m'appelait tout le temps, il demandait à une copine de, j'avais une copine qui me tapait sur l'épaule, et elle me disait il y a ton petit frère qui t'appelle, et j'allais le voir, il me disait tu fais quoi? Bah, je joue avec mes copines, et je comprenais pas pourquoi il me sollicitait. Et en fait, c'est ça le truc de l'aîné, c'est que toi t'as grandi seul et que lui il a grandi toujours avec toi, donc t'es sa référence et tout. Et pauvre chou, il était trop mignon derrière sa barrière à me dire tu fais quoi. Et sinon voilà, j'étais assez studieuse, j'étais pas la meilleure élève mais j'étais pas la moins bonne. J'aimais bien l'école, j'adorais manger à la cantine.
Mais donc tu avais un grand respect pour les règles, et pourquoi tu dis que aujourd'hui c'est quelque chose qui te pose des problèmes?
Bah parce que faut toujours que ce soit cadré, en fait, faut toujours que ce que je, enfin, je dans le spectacle par exemple, dans le one man show, je vais suivre ce qui se fait, je vais regarder beaucoup ce qui se fait. Et sans copier, en faisant mon style, mais je me dis, ouais, mais ça, personne le fait. Enfin, j'ai toujours peur d'être l'ovni, en fait. Et en fait, c'est en étant l'ovni que tu réussis, parce que tu fais des trucs, voilà. Alors, j'ai beaucoup d'instinct, ou j'ai suivi mon intuition sur plein de choses. Mais pour l'écriture de mon deuxième spectacle, je casse encore des choses. Je me dis, ok, je veux faire du, ok, je veux être seule sur scène. Mais qu'est-ce que je veux vraiment? Et j'ai fait un voyage, là, au mois de janvier, et en fait, bon, alors moi, mon bureau, c'est la voiture. Quand je fais des bornes, écoute, tout arrive. Et j'avais que des idées qui, je me disais, c'est saugrenu, c'est n'importe quoi, mais qui sortaient de ce qui se fait dans un one-man show. Je vais pas vous spoiler le bazar, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que j'aime moi vraiment? Qu'est-ce qui m'anime dans le spectacle? Qu'est-ce que j'aime voir dans un spectacle? Tout type de spectacle. Et du coup, je me suis pas cantonnée à qu'est-ce qu'on doit faire quand on est dans du one man show, genre être habillé en noir, avoir pas de décor, pas d'accessoires, parler machin. Hein. Bon, ok, mais qu'est-ce que moi je veux faire?
Ça, c'est déjà des règles que tu suivais pas avec ton premier spectacle. Ouais. Alors donc j'avais vu la toute première version et puis ensuite donc c'était le même spectacle mais que t'avais réécrit, ouais. T'es devenue Bérangère Krief.
Ouais.
En vrai, moi je t'ai vu de peut-être le bout au point virgule ensuite et à la 300e, ouais. C'est ça.
À Bobino,
ouais. Et bah oui, tu commençais en sous-vêtements, en train de t'habiller, t'avais des robes hyper colorées, etc. Donc t'es déjà pas du tout dans le.
Oui, ça l'intro,
du
ouais.
One Man Show.
Après, moi, c'est plus dans la forme là que. Alors l'entrée, oui, elle était. Bah d'ailleurs, ça c'est une. Moi, j'ai écrit avec Grégoire Day, c'est-à-dire que. En gros, je te refais le parcours parce que je pense que c'est important de comprendre ce qu'on peut, en tout cas si c'est pour les gens qui nous écoutent, ce qu'on peut faire. C'est-à-dire que moi, j'ai l'intime conviction de vouloir faire du one-man show depuis l'âge de 10 ans. je fais des cours de théâtre et tout, mais je n'écris pas, enfin ça ne vient pas, puis je vois pas le support, je vois pas comment faire dans ma vie, à moi, Bérangère, à Lyon, chez mes parents où personne n'est comédien, je vois pas comment je vais faire. Mais je fais du théâtre et donc je fais des pièces de théâtre, le truc de fin d'année, tu vois.
Ouais, mais donc c'est des pièces où t'apprends un texte, on te le dit où
voilà,
tu mets, et tu joues
et
avec les autres personnes.
Je propose un plus, tu vois, ouais. Bon, voilà. Et en fait, quand j'arrive à Paris, donc pareil, je me dis, bon, ok, je vais être comédienne. Et j'avais fait une école de théâtre à Lyon où j'avais dû apprendre une fable de la cigale, la cigale et la fourmi, une fable de la fontaine, pour l'audition des cours Florent. Et je passe, donc c'est quand même un texte seul devant la classe. Et moi, quand ça va pas, je pleure. Voilà. Donc c'est très spectaculaire, mais en fait, mon corps vide toute mauvaise énergie, donc je me mets à pleurer. Et le prof me dit, c'est bizarre pour quelqu'un qui veut faire du one man show. Et ça m'a vexé, tu vois. Je me suis dit, bah oui, c'est vrai, c'est une fable de la fontaine. C'est génial quand tu veux faire du one man show. Et je me mettais une énorme pression de ça, tu vois. Je me disais, putain, mais c'est beaucoup. Donc j'arrive à Paris en me disant, bon, ok, la cigale et la fourmi derrière moi, et puis avançons, faisons des trucs en groupe. Et je rencontre une copine à moi qui fait partie de l'équipe du Café Théâtre Le Bout. Et donc là, je vais voir la scène ouverte, et je vois des gens jeunes qui font leur texte. Et je me dis, ah ok, d'accord. Donc c'est la porte d'entrée. Je me dis, ok, il y a un endroit avant Florence Foresti à la cigale, tu vois, et le micro et le DVD. Mais comment tu fais, tu vois ? C'est moi, je voulais faire ça, mais comment tu fais ? Et donc, je vais dans cette scène ouverte et je regarde et je trouve ça génial. C'est des gens qu'on connaît pas et qui sont hyper drôles et tout. Et dans cette école, dans ce café théâtre, il y a une école. Donc, je m'inscris à l'école. Et moi, tu vois, la bonne élève, j'apprends, je vérifie que je veux bien faire ça, que est-ce que être seule sur scène, ça me fait vraiment plaisir. Enfin, c'est des trucs que je sais au plus profond de moi, mais j'ai peur, donc je me forme, il faut que j'apprenne, il faut que quelqu'un me dise ça c'est bien, ça c'est pas bien. Tu vois, c'est ça où je m'encombre. Mais bon, ça s'est fait comme ça. Mais voilà, donc je vais dans cette école, je me fais un réseau et tout, et là, je participe à la vie du café théâtre, mais je fais tout. C'est-à-dire, je fais le spectacle pour les enfants, la caisse, les réservations, l'animation de la scène ouverte, mais je joue pas vraiment des sketchs toute seule. Donc j'observe bien tout, je vais voir des spectacles. Et un jour, j'en ai marre, ça fait un an et demi que je fais ça, et j'en ai marre, et je demande au mec du Café Théâtre une date. Et il me dit, ok, on est en janvier, et il me dit 24 juin 2009. Et là, écoute, j'ai rien. Dans mon carnet, j'ai deux idées, dont celle de m'être toute nue et de faire cette fille qui se change, parce que ça m'arrivait tellement souvent d'être nue devant mon placard et de dire « Putain, j'ai rendez-vous dans 10 minutes et je ne sais pas quoi me foutre sur le cul. Comment faire ?» Donc ça, c'est une des idées que j'ai eues. Et après, je crois que c'était aussi l'exprimer, tu vois, le côté... Et donc voilà, et donc je suis là avec ça. Et comment je fais ? J'ai 6 mois et c'est tout, quoi. Donc, je suis allée voir mes copains humoristes en me disant, alors, comment tu fais ? Comment t'écris ? Quelles sont tes méthodes ? Je me renseigne. Tu vois, je prends des notes, je vais voir. Plutôt que d'écouter mon instinct. Parce que je peux avoir des idées. Mais voilà. Et là, je me retrouve avec 15 textes. Tous mes potes me donnent des textes. Alors que j'ai pas demandé, tu vois, mais bon, voilà.
Ils t'ont écrit des choses, ils t'ont écrit des
textes. Alors, soit il y en a qui me disent, ah, j'ai une idée pour toi, je te l'écris. Soit ils me disent, ah, j'ai pensé à toi, je te l'écris. Soit j'ai un vieux texte, je m'en sers plus, tiens, si tu le veux, je te le donne. Et donc je me retrouve avec mon pote metteur en scène Yoann Chabot à Nice pour une résidence, et on a 15 textes devant nous, on en choisit 10 et on en mêle ça dans un spectacle, et ça donne mon premier spectacle. Et je sais plus de quoi on parlait, pourquoi je dis ça.
Tu faisais ton parcours, en fait,
pour te dire que en fait le début où je me change et cette singularité du spectacle, bah c'est mon idée, en fait, parce qu'après j'ai rencontré Grégoire Day qui m'a aidé à ne faire qu'un auteur et à rassembler mes idées et puis à être cohérent dans l'écriture et efficace. Mais lui, moi, on allait au café, moi je racontais ma vie, puis après lui rentrait et il écrivait un sketch. Donc j'étais pas en conscientisation totale de ce que je voudrais faire vraiment. J'étais comme une comédienne, on est toujours dans le désir de l'autre et dans le réalisateur. Qu'est-ce que tu vois, il y a un côté où t'as envie qu'on te sublime, qu'on te donne des choses, des textes à dire et tout. Et là, aujourd'hui, comme je pense que j'ai accompli plus, j'ai 35 ans, je pense qu'il y a des choses qui se sont accomplies, bah, j'ai plus envie de dire, attends, mais j'ai besoin de personne. En fait, déjà, qu'est-ce que je veux dire, moi? Et après, on verra.
C'est ce que tu es en train de faire pour l'écriture de ton deuxième spectacle, c'est de partir d'abord de toi et ensuite de trouver la
structure. De trouver tous les trucs, comme les idées, de me changer des bonnes idées, quoi. Me mettre toute nue sur scène. Wouh !
J'ai vu, je pense que tu avais joué un sketch, ou un extrait en tout cas, à première fois.
Ouais.
Et c'était fou. C'était... Tu sais, je retrouvais dans ce sketch ce que j'adore chez Kian Kojandi, c'est-à-dire les montagnes russes où il peut faire rire et pleurer dans, dans la même minute de spectacle. Et ta scène, cet extrait-là, que tu jouais avec ton texte encore sous les yeux, parce que c'était vraiment
c'était tout frais.
C'était déjà... et je suis... Donc moi qui t'ai suivi depuis 2010, je te confirme, si je peux tendre
si
un miroir, qu'effectivement, ça se sent, en fait, que... Il y aura plus de toi et j'ai tellement hâte de voir la suite.
J'ai hâte. Ouais, non, mais j'ai hâte. C'est hyper enrichissant. Est-ce que, en tout cas, le seul conseil que je retire de ça, et si je peux le donner, c'est d'apprendre, et on n'apprend jamais parce qu'aucune école n'est faite de ça, mais apprendre à faire avec ce qu'on a au fond de nous, quoi. Parce que c'est ça qui est tellement riche puisque personne ne l'a. Et c'est fou.
Mais parlons de ça, en fait, d'où ça vient, ça, ce qu'on a au fond de soi, tu vois, de comment tu le cultives. J'ai des questions qui peuvent paraître paradoxales vu le métier que tu fais, mais en fait, tu l'as un peu raconté, c'est pas parce qu'on monte sur scène qu'on s'exprime, finalement. Et une question que je pose souvent, c'est c'était quand la première fois que tu as exprimé une ambition professionnelle ? Tu dis, à 10 ans, je voulais être comédienne. Est-ce que c'était déjà dans une projection de
«
ça va être mon métier »
Non, parce que non. En fait, je m'inscris au théâtre, je fais ça à côté de l'école. Et toute ma famille, je pense que j'ai un tempérament, j'étais rigolote et tout. Donc, ma famille, Bérangère fait du théâtre, c'est ok, quoi. C'est ma place. Tout est ok là-dedans et tout. Et après, parce qu'après, je fais mon bac, je fais même pas un truc option théâtre. Je suis même pas cette meuf qui dit mais moi le théâtre c'est ma life. Non, je fais à côté, c'est un loisir, c'est le mercredi après-midi. Ensuite, je fais un Doug art du spectacle, meuf pas sûre quand même, va vérifier. Et après le Doug, je fais une école de une formation à Lyon, l'acting studio sur 6 mois et je me dis je vais faire 6 mois intensément du théâtre, voir si ça me plaît vraiment. Tu vois, non, mais la meuf, je me dis mais qui je suis quoi. Mais je vérifie, mais je suis prudente. Et donc je fais cette école et évidemment je sors, je joue dans le Songe d'une nuit d'été de Shakespeare d'anciens des élèves qui ont monté ça dans un parc, c'est génial, c'est mon premier cachet, je suis au top. J'ai un duo comique avec un pote, je joue dans une pièce qu'on a écrite. Enfin, tu vois, tout se découle. Et dès que t'es à ta place en fait dans la vie, quoi que tu fasses, dès que t'es à ta place dans ta force, dans ce que tu sais faire de mieux, Tout s'ouvre. Et du coup, des fois, on passe du temps à se dire, ouais, non, mais non, non. Et en fait, tout est là, quoi.
Et du coup, est-ce que tu, avec le recul, est-ce qu'il y a un jour ou un moment où tu t'es dit, où ça fait déclic et ça fait, ok, c'est mon métier, je vais faire ça, maintenant, c'est sérieux?
J'avoue que parce que j'ai fait des pièces de théâtre beaucoup avant de faire du one man. Quand j'ai fait le one man, j'ai senti un engouement. J'ai senti qu'il se passait un truc parce que je jouais dans le café théâtre où j'avais fait la caisse. Je savais que moi j'ai des gens qui jouaient, ils venaient me voir. J'ai combien de réserves? 4. Je t'en rajoute 2, c'est des parents. Très bien. Et voilà, ils jouent devant 6 personnes. Et je savais que sans com, sans producteur, etc., ça pouvait être très difficile. Et je me retrouve à jouer donc le 24 juin 2009 et je suis reprogrammée en août. Et j'ai le stress, mais alors je le vis vraiment de façon très stressée. Et je me dis, ok, j'y vais, mais c'est instinctif. Hein. C'est-à-dire que toute ma tête, elle dit non, mais on n'a pas du tout envie de faire ça. Mon corps, il dit, mais si, il faut qu'on fasse ça. Donc tu vois, c'est très... Donc j'écoute cette voix-là et je me retrouve reprogrammée. Et je vois, c'est fin août. À Paris, tu vois, t'as pas grand monde et tout. Et c'est blindé. Mais pas que de gens que je connais. Je me dis, je me fais la réflexion, mais ah, il se passe quelque chose. Je sens qu'il y a un truc. Et puis finalement, après, tu vois, il y a eu tout ça, parce que c'était ma juste place. Mais je crois qu'aujourd'hui, là où, maintenant, quand je te parle, j'ai vraiment hyper envie de remonter sur scène. Je suis hyper heureuse des idées que j'ai eues et de les mettre en forme et que, tu vois, d'être vraiment dans la jeunesse d'un projet et de se dire, pas juste je veux jouer, je veux partager des choses avec les gens, c'est très différent. Et, alors, et ça, c'est, ouais, là j'ai envie, quoi.
À propos de ça, la première fois que tu as pris conscience de ta voix, de ton impact, c'était quand? Est-ce que c'est un souvenir qui te marque?
Oui, c'est très clair, c'est quand c'est le sketch de harcèlement de rue. Ça, c'est vraiment le premier sketch où moi, je fais des blagues sur Christina Cordula, sur les ex, des sujets assez légers. Et on écrit ce sketch avec Grégoire.
Donc le cours de répartie.
Le cours, voilà. Vous pouvez retrouver sur mademoiselle.com,
oui.
Qui a été ma première plateforme de diffusion. Et en fait, ce sketch, il naît de... C'est très simple, je suis au café avec Greg, je reviens de Lyon et je lui raconte, sans parler de boulot et tout, je lui dis, putain, tu sais pas quoi, j'étais un feu rouge l'autre jour. Oh, je dis, j'attendais ma mère, il y a une estafette qui s'arrête, le mec me dit, excusez-moi, c'est quoi le chemin le plus court vers votre cœur? Oh, je dis, putain, je suis là avec ma doudoune, j'attends ma mère, moi je crois qu'il demande l'heure, tu sais, t'y vas gentil pour dire, peut-être il est perdu, le gars. Et le mec, il te drague, et ça te renvoie une image de beefsteak, comme si t'étais en vitrine, à Super U. Et du coup, j'étais en colère, quoi. Et je lui raconte ça. Et lui, il note ça dans son carnet. Et puis lui, il a sa meuf qui dit aussi des trucs comme ça. Il dit, putain, il me dit, une fois, je l'ai fait. Genre, il a fait marcher sa meuf devant et il l'a vu. Donc, il constate le truc et tout. Et on écrit le cours de répartie anti-relou. Et là, impact sur l'univers. Et là, je me dis, OK. Et j'ai vraiment compris le jour où je suis rentrée j'étais dans un reportage complément d'enquête. Donc, sur le harcèlement de rue. Mais sur le harcèlement de rue, caméra embarquée, à Gare du Nord, de la nuit, avec des meufs qui risquent de se faire violer, tu vois. Avec moi qui fais mes blagues derrière, je me dis, attends, mais moi je suis humoriste, je suis pas dans un fait d'actualité.
C'est pas porte-parole de la cause féministe.
Voilà.
En fait, si.
Et en fait, si. Et en fait, c'est là que je me suis dit, ah ok, d'accord, il y a un truc à dire, c'est un moyen, j'ai un moyen de m'exprimer et peut-être de faire changer des choses. Mais c'est vraiment ce jour-là que j'ai compris.
Je suis hyper contente que tu racontes cette anecdote parce que oui, totalement, vraiment. Ouais. Enfin, c'est.
Je me suis dit, ah ok.
Je pense que t'es une des Françaises qui a le plus contribué à la médiatisation du phénomène.
Ouais.
Et après toi, il y a eu Peyta Schneck.
Ouais.
Après toi, il y en a eu plein. En fait.
Ouais,
c'est,
ouais.
C'est comme Sophie Peters.
Oui,
en Belgique,
bah il y avait en
vidéos.
Même temps Sophie Peters.
Voilà,
ouais.
C'est tout ça, ça fait une traînée de poudre et c'était ça a libéré complètement la parole sur le sujet.
Ouais.
Et est-ce que c'est quelque chose que tu recherches, tu sais, quand on parlait de avoir laissé parler ses tripes, est-ce que dans tes tripes, il y a ce besoin de qu'il y ait du sens, qu'il y ait une portée de ce que tu exprimes?
Bah alors, je me dis, je suis pas dans le forcément le, je recherche pas d'abord le message que je veux faire passer, juste ce qui m'anime. Et dans ce qui m'anime, j'ai remarqué, comme pour le harcèlement de rue, je suis animée par un phénomène, j'en parle et finalement, ça touche plein de gens. Donc, je verrai, j'aurai la surprise de voir quel sujet m'anime et quel sujet touche les gens. Parce que je pense que la démarche, d'abord me dire, alors attends, j'observe, qu'est-ce qui pourrait plaire aux gens, c'est une mauvaise démarche. Donc vraiment, j'ai pris que des sujets qui me... des expériences, un partage. Et c'est vrai que quand quelqu'un te partage une expérience de la façon la plus vulnérable possible, ben ça te fait écho chez toi à autre chose. Donc pas rechercher à dire, donner le conseil, à être, tu vois, à dire ouais, moi je pense qu'il faut faire comme ci ou comme ça. Non, en aucun cas. Mais par contre, quelqu'un qui te témoigne de son expérience peut t'aider à te dire, ah oui, ok, ça me parle, ça me touche et tout. Donc c'est ça que je veux faire.
Tu sais, il y a un autre sujet sur lequel je t'ai trouvé révolutionnaire. et c'est le rapport au corps et au complexe. Parce qu'encore une fois, tu commences ton spectacle, ton premier spectacle, tu le commençais en soutif culotte, en train de t'habiller, de se changer, machin et tout. Alors que les corps des femmes sont soumis à une pression dingue dans la société. Et je me disais... Waouh, mais le cran qu'il faut pour faire ça sur scène, est-ce que c'est un truc dont tu avais conscience? Est-ce que tu as été beaucoup. Est-ce qu'on a fait beaucoup de remarques sur ton physique quand tu as commencé à gagner en notoriété? Ou même sur les réseaux sociaux, parce qu'en plus, tu en jouais vachement en disant. Tu prenais une photo de ton spectacle à la fin en disant allez, taguez-vous, etc.
Ouais, ouais.
C'est comme ça que je suis taguée sur de tes photos.
J'adore,
de
mais tu sais que c'est des super souvenirs. Il y a des gens qui me renvoient la photo et tout. J'adore.
Mais oui, en fait, à une époque où j'ai l'impression que quand tu es une femme qui montre ton corps sur les publiquement, on se prend beaucoup plus d'attaques ou de critiques que de compliments, tu vois ce que je veux dire?
Bah, c'est hyper, il y a une grosse dualité sur ce début de spectacle. Alors déjà, pour l'histoire, c'est donc cette idée, c'est donc de mettre en scène ce moment où je suis chez moi, j'ai rendez-vous avec une copine, Je suis en soutif culotte et je ne sais pas comment m'habiller. Et donc, prétexté, on avait fait ça en impro avec Johan à l'époque. Donc, j'avais dit, ouais, je suis en retard, le métro, machin, etc. Et nous, on l'avait mis dans le spectacle. Mais donc, ça arrivait au milieu de nulle part, tu vois, presque au milieu, quoi. Et c'est Grégoire qui m'a proposé de le mettre au début. Et je trouvais ça super. Et en fait, je sais pas pourquoi, j'ai pas un désir de nudité à fond. Ça me paraît étrange d'avoir eu envie de faire ça. C'est hyper inconscient. Parce que je voulais en tout cas le faire à fond pour pas faire genre je fais un truc mais tu sais genre tu mets une serviette et tout. Non, je me suis dit si je le fais, j'y vais quoi. Et après c'était intéressant parce que oui, dans le spectacle avec Grégoire, on avait écrit quand je me pour le premier sketch où je me change, je suis à poil, les filles se reconnaissent, elles sont contentes, elles sourient, et les garçons, ils comprennent pas, mais du moment que quelqu'un a poil sur scène, ils sont contents. Et c'est vrai que ça calmait tout le monde, parce que, en fait, quand t'es une femme sur scène en robe, par exemple, ce qui était mon cas, j'avais vraiment envie d'être en robe, j'ai l'impression que on se dit ah attends est-ce qu'elle est courte, elle est longue, est-ce qu'on voit, est-ce que la bretelle va tomber, est-ce qu'on va avoir un bout de sein, est-ce que donc là t'as montré quelque part derrière c'est bon le gars il sait ce qu'il y a en dessous hein, il peut passer à autre chose dans sa tête et mais j'avais pas le truc body positive dans la tête c'était voilà c'est wham et je suis à la fois hyper à l'aise dans mon corps je peux pas dire que je suis pas complexée, mais bon, voilà, quand j'étais sur scène, je me disais pas, ah là là, bon, j'avais peur des fois d'être mal épilée, ou tu vois, mais à partir du moment où j'étais sur des grosses scènes, bon, voilà, c'était assez... Mais au point virgule, par exemple, au bout, ouais, enfin là, il y avait quelque chose d'encore plus performant que sur une scène. Je trouve que sur une grande scène, c'est pas... t'es loin, tu vois, mais au bout... sur la petite scène ronde là avec des gens à 50 cm ouais là j'étais
c'est plus impressionnant les petites salles que les grandes
salles. ouais je me disais là j'en avais c'était en rond les gens étaient positionnés en rond t'en as devant derrière de tout par de toute part ouais là c'était je me rappelle me dire ok est-ce que je suis bien épilée est-ce que ça va mais après sur l'histoire de mon corps y a eu ça qui m'a aidée. Après, ce qui était marrant, c'est que quand je sortais un extrait de mon spectacle, j'avais l'impression que si je faisais pas ça, les gens m'écoutaient pas. J'avais l'impression qu'il y avait un temps. Alors, Grégoire a toujours dit que c'était dans ma tête. Mais je disais, ouais, quand t'arrives et que t'es une femme sur un plateau d'hommes, bon, bah, le mec, il arrive, il a une chemise, un pantalon, voilà, on l'écoute et tout. Et toi, il y a les femmes et les hommes jaugent. C'est-à-dire, les mecs se demandent s'ils te baiseraient bien ou pas. Les femmes se disent, est-ce qu'elles me piqueraient mon mec ou pas. Enfin, il y a un truc, tu vois, d'une évaluation de séduction. Et après, peut-être on t'écoute. Mais après, c'est peut-être que dans ma tête, j'en sais rien.
Alors, je pense pas que c'est que dans ta tête. C'est moi, j'ai la sensation que les femmes ne sont pas neutres dans l'espace public. C'est... Oui, il y a pas la neutralité, tu vois. Non. Effectivement, un mec en costume cravate, c'est l'image de la neutralité.
Ouais, moi. Ça excite personne. Enfin, ça peut. Oui, si ça peut exciter un peu.
Oui, mais... enfin, il peut être très sexy ou quoi que ce soit, ouais, mais juste, ouais. C'est un peu comme si il avait les apparats de la neutralité. Ouais, ouais. J'ai mis un costume cravate, ça veut dire je suis dans les codes. Et c'est quoi l'équivalent costume cravate de la femme? Ça dépend des milieux. C'est la robe. Tu peux avoir une très belle robe et dans un milieu, c'est considéré comme c'est l'habit professionnel. Et ailleurs, c'est t'as trop de couleurs, donc faut être plus sobre ou c'est trop court ou c'est trop long ou c'est. Et de mon expérience dans ces milieux, c'est juste que moi j'ai toujours eu aussi l'impression d'être jamais habillée, de jamais présentée comme il fallait, de toujours détonner de toute façon. Et ouais, j'ai environ le même âge que toi. Moi, je vais avoir 32 ans cette année. Et bon, j'ai l'air d'en avoir 16 et demi, quoi que je fasse.
On est dans le même collège, non, apparemment.
Voilà. Et qu'au bout d'un moment, je préfère assumer une forme d'excentricité parce que c'est plus facile de. Bon, vu que de toute façon, je vais faire 10 ans de moins que mon âge. Autant
profiter. Ouais, non, mais c'est sûr. Après, oui, c'est vrai que s'habiller comme on veut, c'est la base. Mais c'est vrai que, ouais, le corps de la femme est hyper sexualisé, quoi, tout de suite. Mais je me fais la réflexion, tu sais, des fois, quand tu vois passer, par exemple, moi, quand je vois passer une femme très sexy, je me fais la réflexion, je me dis, j'ai vu une nana passer il y a pas très longtemps, elle était en mini-jupe, elle avait une guêpière en dentelle. Mais je te dis ça à 14h30 à côté du BHV. Hein. Et je me dis, putain, c'est beaucoup et tout. Et après, je me dis, non, elle a le droit de s'habiller comme elle veut, j'ai pas à la juger. Mais le truc est encore ancré où c'est un truc où tu regardes si des gens la regardent, tu vois.
Tu sais d'où ça vient?
Non.
C'est parce qu'on est sans arrêt. C'est comme s'il y avait une deuxième division dans la vie. Il y a le championnat principal et il y a la deuxième ligue, c'est les femmes. Et donc on est sans arrêt en compétition entre nous pour une place. Tu sais, il y a un mec dans les comédies, dans les films, etc. Il y a un mec. Donc on se bat pour le mec. Ouais. Il y a une place au conseil d'administration, en politique.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Qu'il y a une place à prendre, donc on se bat pour la place. Et donc en fait, on est sans arrêt mis en compétition les unes contre les autres. Et tant qu'on fait ça, et tant qu'on ne brise pas ce cercle, on n'a aucune chance de détruire le patriarcat, parce que pendant ce temps, les mecs, ils sont tranquilles.
Ouais, ouais.
Ils nous regardent nous battre entre nous.
Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'il n'y a toujours qu'une place, il n'y a pas beaucoup.
Est-ce que tu as eu cette sensation dans ta carrière, justement, dans le monde du spectacle, où tu sais, est-ce que tu as déjà eu cette sensation qu'il y avait une place pour une seule femme dans des sketchs? Tu sais, il y a Pablo, Marco, Henri et une femme.
Oui, et Sophie. Bon. Alors, moi, c'est vrai que quand je suis arrivée, je ne m'étais pas posé la question. Je me suis pas dit, ouais, c'est un métier d'homme, va falloir que je fasse ma place et tout. Le truc, c'est que moi, j'avais Grégoire Day avec moi. J'avais une paire de testicules dans mon équipe. Et donc, Greg, il m'écrivait des bonnes grosses vanasses de bonhomme, que j'avais très grand plaisir à dire. Et il y a un humoriste, une fois, qui m'a dit, ah, c'est marrant, mais ça m'avait pas choqué. Enfin, ça m'a choqué après, mais écoutez la phrase. Le mec me dit, ah, c'est marrant parce que les meufs, elles me font pas rire, mais toi, tu me fais marrer. J'avais envie de lui dire, mais ce qui te fait marrer, mon gars, c'est la paire de testicules de Grégoire Day, mon gars. Tu vois, j'étais là, mais c'est fou, quoi, de dire ça. Tu vois, il y avait un truc, oui. Mais c'est, pour moi, c'était normal. Et je me disais, flatté. Tu vois, genre, ah, moi, je fais rire. Après, je dis, merde, attends, c'est quoi, Zélia? Et après, j'avance, j'ai la chance de participer à Bref, la lumière sur le spectacle, donc le spectacle plein. Donc je peux pas dire, ouais, les gens ils vont voir. Non. Ça marche pour moi. Mais quand je fais des interviews, il y a des mecs qui me demandent, ils me disent, ah, c'est très girly, hein. Tu sais, j'ai la sensation qu'il y a des mecs qui ont peur de venir voir mon spectacle comme les mecs ont peur d'aller dans le sac à main d'une meuf. J'ai envie de dire, mais gars, tu as peur qu'il va se passer quoi? Tu vas tomber sur un tampon géant qui va te manger, je sais pas. Même si tu tombes sur un papier de tampon, enfin, un tampon emballé. Nous, on le cache, les filles, on le cache. Mais les mecs, pourquoi on a peur tous de tomber là-dessus? Et puis, tu veux un bonbon? Oh là là, mon Dieu, le mec a vu mon tampon. Mais oui, bah oui, ok. Il y a tout ce tabou là qui me bouleverse. Et en fait, donc si tu veux, j'étais très en colère contre les mecs qui me mettaient dans la catégorie. Donc ça, c'est un truc de bonne femme, quoi. C'est pour les bonnes femmes. Je connais des gens qui me disent, ouais, je suis pas la cible. Mais c'est quoi la cible de mon spectacle? Et après, avec comme Greg, il était super bon là-dedans. On a aussi bossé l'écriture pour que ce soit que ce soit ouvert. Alors c'est bien et c'est pas bien, c'est-à-dire ouvrir aux hommes les sujets pour qu'ils se sentent pas trop seuls. Mais pourquoi ils s'intéressent pas aux sujets féminins? Genre quand je vais voir quand je vais voir Mathieu Madénian, je me pose pas la question de savoir si ça va me plaire parce que le mec est un homme. À aucun moment, j'ai le plaisir d'aller voir un homme, j'ai le plaisir d'aller voir une femme pour des raisons différentes. Mais à aucun moment, je me dis, mais ah oui, non, bah, ça va être que des trucs de bonhomme. Ah non, je ne peux pas y aller. Et il y a autant de femmes que d'hommes. Les femmes vont beaucoup plus au théâtre, mais de manière générale. Donc ça, c'est déjà une généralité qu'on peut enlever en disant qu'il y a que des femmes qui viennent voir mon spectacle. Donc voilà, mais après j'ai eu le plaisir après de voir dans mon public, j'adorais, c'est une bande de mecs. Alors ça, je trouvais ça génial, mais qui se bidonnaient, mais pliaient en quatre et tout, et entre potes, ou le mec qui accompagne sa meuf et tu sens vraiment qu'il fait un effort de beau gosse pour plaire à sa meuf, et c'est lui qui est mort de rire encore plus, tu vois. Et donc voilà, mais il y a un côté, tu viens voir Bérangère Crève, c'est une aventure pour un mec, quoi. C'est exotique, c'est moi au Parc des Princes, quoi. Tu vois, c'est encore fou, quoi. Alors que c'est du one man show, c'est pas un sport, c'est pas, tu vois, pas une ségrégation. Enfin, anti-mec dans la salle, quoi.
Mais bien sûr. Mais la réflexion qu'on t'a faite sur j'aime, les meufs me font pas rire, mais toi, oui, c'est l'équivalent de, pour les humoristes, de j'aime pas les filles, mais toi, t'es cool, t'es pas comme les autres filles.
Bah, oui.
Qu'on a toutes prises pour un compliment quand on l'a eu à 12 ans ou à 15 ans, jusqu'à se rendre compte que non, en fait, c'est toi qui es con de pas voir que les filles ne sont pas un ensemble homogène et que, encore heureux que tu ne. Enfin, c'est logique de ne pas aimer les filles, tout le monde, enfin, tout le genre féminin, et d'avoir des atomes crochus plutôt que les personnes que tu apprends à connaître, que tu écoutes sur ça, enfin, je sais pas. Et je pense que t'as eu aussi ce succès parce que tu t'es jamais enfermé dans le rôle de la meuf, tu vois.
Oui.
Tu faisais beaucoup, beaucoup moins de nous les filles, où effectivement tu le faisais en faisant alors les filles, vous comprenez la situation, et puis bon, bah les mecs, vous me voyez à poil, donc tout le monde se rend compte. Il y avait beaucoup de, enfin, il y avait quelques scènes comme ça,
oui.
Mais il y avait beaucoup plus de sketchs qui étaient très universels. Quand tu fais Christina Cordula, etc., c'est pas où tu parles pas justement uniquement à un public féminin.
Oui, quoi. Oui. Non, mais c'était une volonté, parce que c'est vrai que au tout début, tu sais, pour toujours dans ce petit café théâtre Le Bout, il y a 50 places, et c'est vrai que les premières semaines, et avec la diffusion sur Mademoiselle, la salle s'est remplie très vite, mais avec des femmes. J'ai eu des soirs où j'avais 48 femmes et deux hommes. Et là, on s'est dit avec Greg, mais moi, je vais pas faire une conférence pour les femmes. Enfin, je suis très heureuse de parler aux femmes, mais moi, mon but, c'est de nous réunir tous. Et c'était pas gagné, quoi. Et après, tu vois, et les médias, mais alors les médias, le mot girly, j'ai envie de leur faire bouffer, quoi. Le mot girly, j'avais envie de dire, c'est quoi girly, en fait? Pourquoi on met un mot sur le fait que je sois une femme? Enfin,
pourquoi ce mot-là, surtout, en fait?
C'est très girly. C'était marketing. C'est comme toutes les scènes ouvertes, spéciales femmes, 100% femmes, machin. On était obligés de se réunir pour exister. T'es là, ok. Et après, c'est-à-dire qu'on mettait un mot sur 100% femmes, une scène, alors que tu regardes le nombre de plateaux, il n'y a que des hommes. Il n'y a pas écrit 100% mec, de la testostérone à gogo. Putain, les gars, ils s'organisent.
Le plateau foot bière et jeux vidéo.
Mais ce que je me dis, c'est que le truc qui peut nous sauver, en tout cas, de tout ça, c'est entreprendre. C'est prendre sa place. Parce que on peut critiquer, on peut... Eux, ils ont été élevés comme ça. Je pense que nous, on récupère tous le truc ancestral de génération en génération. Et encore, on a quand même des mecs plus souples, plus cool, plus à l'écoute, qui sont quand même moins bornés qu'il y a 40 ans, quoi. Mais eux, ils comprennent pas. Des fois, tu te dis... Tu sais, t'es là... Alors nous, on verbalise beaucoup. Donc moi, je verbalise, tu vois, j'ai besoin de parler. Et à un moment, tu te dis, mais attends... Avec tout le temps là où j'ai parlé de mon truc, de mon machin, les mecs, eux, ils sont pas dans leurs émotions. Donc, ils sont en train de faire des entreprises, ils créent des trucs, ils créent des scènes ouvertes, ils invitent leurs potes, ils font leur business. Qu'est-ce qui m'empêche, moi, de faire une scène ouverte, d'inviter des gens? Qu'est-ce qui m'empêche, moi, de faire la même chose? Alors, il arrive un truc où je me dis, est-ce qu'on veut faire la même chose? Et ça, c'est la grande découverte. Non, en tout cas, c'est pas faire la même chose, c'est dire laisser la place à ce que peut faire une femme. Et ça va peut-être pas être pareil, mais ça a une intensité, ça a une valeur. Ça que je trouve qu'il y a pas aujourd'hui. Parce que parfois, on dirait truc de gonzesse là. Même un spectacle d'humour. Alors souvent, il y a le gros débat sur l'humour féminin et l'humour masculin.
C'est-à-dire.
Moi, je pars du principe qu'on n'a pas été, on a été élevés comme des filles et des garçons. On a été élevés dans un truc où les filles, elles rigolent aux blagues des garçons et les garçons, ils font des blagues. Les petits garçons, on leur dit, tu pleures pas, t'es fort, voilà, on n'est pas.
T'es un chef.
T'es un chef, non, tu te fais bobo, c'est pas grave, machin. Et en fait, de cette protection-là et de cette non-vulnérabilité de pouvoir chialer deux minutes dans ta vie, eh ben, il crée ce truc qu'ont les humoristes, c'est la protection par l'humour. C'est-à-dire que par l'humour, tu te proposes, tu fais rire les gens, moi c'est ce que j'ai aussi, tu vois. C'est une arme de défense aussi. C'est un plaisir de faire rire, mais ça veut dire que c'est le moment où le rire de l'autre te propose ta propre existence. Donc voilà. Et donc les petits garçons, ils sont dans la cour, voilà, ils se font rire, ils font des blagues, ils font. Imagine le bonhomme, il tombe et après, tu vois, il développe ça, il s'invente des histoires et de cow-boys et de machin. Nous les filles, on a eu le droit de pleurer. On a le droit de dire ce que je ressens là, c'est que j'ai un peu de tristesse et en même temps je suis un peu mélancolique. Et on a le temps de parler des garçons, de s'inventer des histoires. Alors nous, on a d'autres histoires. Alors nous, c'est comédie romantique, le machin, attendre que le mec vienne,
transforme les histoires qu'on nous
raconte. Voilà, l'histoire de qui, ça va être ta vie va être transformée grâce à l'homme de ta vie, machin et tout. Donc du coup, pour moi, l'humour féminin, il est plus teinté d'émotions. Il est plus teinté de sentiments, de dire ouais putain je me suis sentie mal parce que j'ai ressenti ça profondément et tout.
Mais tu veux dire que c'est plus dans le partage de quelque chose ouais, et les mecs c'est plus dans le enfin faire rire quoi.
Bah, la vanne chose, quoi. Ouais. Alors après il y a des humoristes très sensibles. C'est une sensibilité après elle a été. En fait c'est pas féminin masculin mais c'est la sensibilité comment elle a été traversée oui, par les ça. Gens. C'est on a tous une sensibilité. Elle est plus ou moins
Oui, c'est une des différences qu'on a aujourd'hui entre les genres féminins et masculins, c'est les niveaux de sensibilité qui sont pas du tout génétiques,
voilà.
qui sont complètement hérités ouais. de l'éducation voilà. du milieu dans lequel tu as grandi.
Et en fait, pour moi, l'expérience du spectacle ou le one man show, je dirais féminin, en tout cas par une femme, c'est peut-être pas de rire tout le temps, c'est de vraiment partager, d'ouvrir à des choses. Je sais pas, j'ai pas d'exemple, mais. Et donc du coup, ça veut dire que parce que toujours quand il y a une scène ouverte et qu'il y a une meuf, soit elle est vraiment badass, genre faut qu'elle soit un peu presque elle est moins dans son féminin que dans son masculin. Et c'est cool aussi, mais pourquoi on peut pas être juste à notre place, tu vois, yin yang et c'est OK. Et en fait dans un plateau, c'est putain, moi j'ai vu plein de fois où j'étais vraiment marrante dans mon spectacle puis j'arrive dans un plateau je suis vraiment moins marrante. Enfin, le niveau de rire, il est moins. C'est plus rond, c'est plus. C'est autre chose. Mais sauf que cette notion-là, pour moi, comment dire, elle n'est pas homologuée. On n'en parle pas. Et celle qui arrive très très bien à le faire, c'est Blanche Gardin. Je l'avais vue dans un plateau, Les Insolents, je crois que c'est avec. Elle fait avec Dedo, Aymeric Lompré. Donc, elle fait un plateau avec que des hommes. Et en fait, les mecs commencent, machin, tu vois, vanne de mecs et tout. Et elle arrive, donc Blanche Gardin, robe.
Dans son personnage,
voilà, avec okay. son micro, elle bouge pas. Et elle a retourné la salle dans son féminin. Et c'est hyper, pour moi, enrichissant et intéressant. De voir qu'elle est pas obligée de faire les gars, ouais, machin, ce que j'ai fait, moi, hein. Tu vas te faire, ouais, bah putain, bah ouais, bah vous parlez comme ça, bah moi aussi je peux le faire. Et j'ai envie de retrouver un truc, tu vois, d'être dans ma féminité. Parce que c'est là la puissance, en fait, pour moi. Et Blanche, pour moi, c'est vraiment la nana qui, elle bouge pas d'un pet. Elle est devant son micro vissé et elle t'envoie des trucs de fou tout en étant femme, quoi.
C'est très fort. Je réfléchis beaucoup à ces questions parce que je partage ce même sentiment. C'est-à-dire que, OK, on a fait le constat avec le féminisme, avec mon féminisme. J'ai fait le constat que j'étais pas à égalité dans la société avec plein d'hommes. Bon, voilà, ça, c'est un constat. À partir de là, j'ai des choix d'action. Ne pas agir, me plaindre, regretter l'état du monde, ou plein de pistes d'action. Et une de mes réflexions, c'est je veux compenser en fait cet écart, mais sans renier qui je suis. Et par exemple, moi, je me fais beaucoup la réflexion autour du leadership, parce que je suis manager et que je voulais faire de la politique. Enfin, j'ai toujours eu ces ambitions-là. Mais où étaient les modèles féminins? Où étaient les Blanche Gardin, en fait, de ma division à moi, sur lesquelles j'aurais pu prendre exemple? Et que ce soit en politique ou dans l'entreprise, les modèles de leadership que j'avais dans les yeux, en fait, étaient très négatifs parce qu'ils ouais. étaient détestés. C'était pas des gens qui arrivaient ouais. à fédérer ouais. parce que c'est une femme de pouvoir, c'est,
ouais. Ça fait peur.
Ça
hein.
antagonise de ouf, quoi. Ouais. Alors que, bon, quand t'apprenais à les connaître ou juste tu ouais. regardais leurs actions, c'était. C'est des modèles très positifs.
Simone Veil, là, tu vois, quand elle est décédée, là, j'ai regardé des vidéos et tout. Elle était intéressante pour ça parce qu'elle était vraiment la femme. Et d'ailleurs, ça les déstabilisait tous, hein. Parce qu'elle restait dans sa, tu vois, prenons Marine Le Pen, qui est très masculine, tu vois. Il y a un côté, ça fait folle. Tu vois, alors que Simone Veil était vraiment dans son truc très centré, comme un homme, hein, c'est-à-dire même mais dans sa féminité. Et putain, elle envoyait des trucs. Là, j'adore. J'adore les vieilles vidéos de Simone Veil. J'avais vu un jour un destin, je crois, hyper bien, où tu découvres vraiment quelle femme c'était, quoi.
Ah, mais ça me fout la chair de poule à chaque fois que j'entends des extraits de son discours à l'Assemblée nationale. Ouais. Mais c'est vrai que elle avait une histoire tragique.
Ouais, ouais.
Je veux dire, forcément, quand tu as survécu au camp de concentration, je pense que t'as plus rien à perdre dans la vie.
Ah, ouais.
Et un côté, t'as survécu au pire. Donc, qu'est-ce qui peut t'arriver derrière?
Qu'est-ce que tu peux faire?
C'est fini, quoi. Et ouais. Bon, ben, clairement, je suis pas dans le même niveau d'urgence dans ma vie. Mais voilà, tout ce que tu racontes sur l'humour et sur Blanche Gardin, ça me renvoie. J'ai fait la même interview avec Cécile Duflo, qui m'a dit un truc qui m'a brisé le cœur, mais Cécile Duflo, je l'admire pour son engagement politique, tout en ayant conscience que bah elle a beaucoup traîné cette réputation de meuf dure, quoi, de renvoyer une image hyper négative et tout. Elle me dit ouais, c'est dur en soirée, tu rencontres des gens et tout, et au bout de 3 minutes de conversation, et les gens te font tiens, c'est marrant, en fait t'es sympa. J'avais exactement ce sentiment de me dire, ben oui, en fait, dès que t'as une position de pouvoir, dès que t'es en train
d'affirmer quelque chose qui t'anime,
tu vas dégager un truc hyper antagonisant pour aucune raison.
C'est trop triste.
est-ce qu'il y a des moments dans ta carrière où t'as eu des énormes doutes au point de vouloir abandonner et de te dire, vas-y, pourquoi je m'inflige tout ça, c'est trop dur?
Non. J'ai jamais, même quand je faisais des spectacles dans des salles, dans des petites salles et tout. À un moment, mes parents, ils m'ont dit, ouais, peut-être réfléchir à un truc, non? Mais non. J'avais vraiment,
Mais parce que toi-même, vraiment, tu galérais trop ou parce que t'avais pas de job? Ou c'était pas parce que
ça t'avait
pas assez,
quoi. Des fois, j'avais pas de boulot, tu vois, t'es là, tu fais des cours et puis, enfin, il n'y a pas, il y a eu quelques périodes. Alors moi, je faisais toujours, j'ai joué dans toutes les pièces que je pouvais, qui me plaisaient. Hein. J'ai une copine qui avait écrit une pièce en cours de théâtre. On jouait pour de Francis Sous, tu vois. Mais bon, mon projet, c'était d'être sur les planches. Hein. C'était pas d'être dans les magazines. Donc, tu vois, je jouais, je voulais bouffer de la planche, quoi. Donc dès que je pouvais, c'était super. Et non, j'ai jamais eu. Mais bref, ça arrivait tant, j'avais quel âge? J'avais 27 ans, 28 ans. Juste avant mes 30 ans. Et bref, ça arrivait tellement vite et tellement fort. Et je pense que beaucoup de gens attendent ce moment-là, en fait. Ce basculement où tu deviens connu.
On t'arrête dans la rue après.
Ouais, où on t'arrête. Ah bah là, oui, mais le jour même, hein, c'était un truc de fou. Enfin, franchement, je pense que c'est ça qui vivent les gens de la Maison des Secrets, je pense. Ils sortent et du jour au lendemain, tu fais la couve de tes 7 jours, t'as pas compris. Et donc, du coup, je me retrouve dans cette notoriété. Et aujourd'hui, ce que je peux en dire, c'est que je rencontre beaucoup de gens qui attendent ce moment. Tu sais, qui disent quand j'aurai réussi, quand je serai connue, quand... Et en fait... Enfin, moi, je suis très heureuse. Mon parcours, je l'adore. Hein. Je suis hyper contente. Mais dans ce parcours-là, il y a une meuf qui attend rien et qui attend tout. Tu vois, je fais mes trucs, je vais là où je dois aller. Du coup, je rencontre des gens. Enfin, tout est hyper facile. Mais la vie, c'est ça, en fait. Je pense concrètement que la vie est parfaite toujours et que si tu dois vivre des choses dures, ce qui m'est arrivé, hein, je veux dire, autant dans mon boulot, une rivière avec un petit, tu vois, un petit bateau qui coule, voilà, on s'arrête de temps en temps, il y a un petit problème, on repart. Autant dans ma vie perso, là, c'était beaucoup moins fluide. Et en fait, ces écueils-là et ces ruptures et ces chagrins, etc., c'est juste que je suis pas à ma place, quoi. C'est la vie qui me met une petite gifle et qui dit « Hey gars, si tu veux faire un truc cool, vraiment, c'est pas là. Hein. » Et elle t'a donné 2-3 signes. Déjà, la vie, elle t'a dit « Bon, là, t'as eu l'intuition. Tu t'es dit « Ce mec, je le sens pas depuis le début. » Mais non, la voix de l'ego qui dit « Ouais, mais non, mais quand même. Tu te fais ton dream, ça correspond aux comédies romantiques que t'as vues, nanana, ça correspond à l'histoire que tu te racontes. » En tout cas, c'est l'histoire que je me racontais, je m'en racontais pas mal. Et en fait, à un moment donné, la vie, elle est obligée de me mettre une énorme gifle. J'ai une grosse rupture qui m'a fait me dire, mais attends, je suis qui, en fait? Je veux pas être la meuf d'eux, tu vois, qui je suis? Si je veux rencontrer quelqu'un, il faut que je sache qui je suis. Puisque quand je me mets en couple, je deviens une espèce de Brie Van Der Kamp super relou et chelou de, tu vois, genre il faut que le frigo soit plein, il faut, mais des injonctions que je me mets moi-même, tu vois, des trucs où je me dis mais attends, mais pas du tout quoi. Et donc j'étais hyper en souffrance, donc dès que je suis en couple, je m'éteins. Donc maintenant mon projet c'est de dire ok, je reste allumée et je trouve quelqu'un. C'est un autre dos, mais ça c'est l'évolution du. Je lis plein de trucs sur le couple. Il y a une conférencière qui s'appelle Esther Perel.
Ouais, ça me dit quelque chose. TED Talk sur la fidélité, non?
Elle a écrit. Alors il y a l'intelligence érotique sur le désir dans le couple. Et là, elle a écrit Je t'aime, je te trompe sur l'infidélité.
Ah, ça doit être. Mais je crois que j'ai. Je crois que c'est elle.
Et elle fait des podcasts et tout. Je l'ai vue à la sortie du livre, là. Elle a fait une conférence à Paris. Et donc, j'ai eu la chance d'y être. Et en fait, c'est incroyable parce qu'elle revisite le couple d'aujourd'hui. Les besoins, tous les problèmes découlent d'un truc où c'est pas possible, en fait. On peut pas être émancipé et devenir tous les deux quelqu'un. Et en même temps, continuer sur le schéma où, comme mon papy, ma mamie, mon papy il travaille, ma mamie elle l'attend à la maison et elle fait à manger, quoi. C'est pas possible.
Ouais, c'est le dilemme de La La Land, l'amour ou la carrière, ouais. Quand il y a conflit, parce que parfois il n'y en a pas et tant mieux, et parfois il y en a et faut le trancher.
D'ailleurs, j'ai revu le film Erin Brockovich il n'y a pas longtemps. Waouh! Je l'ai revu là, tu vois, avec qui je suis aujourd'hui. C'est hyper intéressant parce que tu sais, elle bosse, elle s'investit dans le truc et tout. Et à un moment, le mec, il se barre parce qu'elle est pas là et tout. Et tu dis, mais c'est l'histoire de toutes les femmes, quoi. Et le mec se barre, quoi.
Ouais, c'est un film qui m'a beaucoup marqué. Ça fait partie des ovnis que j'ai vus dans mon enfance et qui m'ont marqué à l'époque. Je n'aurais pas su dire pourquoi. Mmh. Et avec le recul,
Tu sais très bien.
Parce que c'était la petite graine qui, plutôt, c'est ce qui venait de nourrir la petite graine que j'avais déjà dans la tête de me dire, je suis pas. La Belle au Bois Dormant ou Blanche-Neige, c'est pas moi. Les histoires qu'on me lit le soir, là, ça me correspond pas du tout. Moi, je suis le chevalier à la limite. Et en vrai, j'ai pas envie de battre des dragons. J'ai juste envie d'exister tranquillement.
Ouais. Moi, mon Disney préféré, c'était Merlin l'Enchanteur. Donc, tu vois, le délire de la meuf. Moi, c'était faire de la magie et être avec Merlin l'Enchanteur, quoi. C'est retirer l'épée du rocher, quoi.
On arrive vers la fin de l'interview et j'ai des questions que je pose, qu'on se pose à chaque fois. C'est quoi le pire conseil qu'on t'ait donné ?
Le pire conseil, ça commence par il faut absolument faire ça. Par exemple, je sais pas pourquoi je pense à l'émission On ne demande qu'à en rire. En fait, l'émission On ne demande qu'à en rire quand elle sort. Donc c'est le truc d'humoriste et tout.
C'était quoi le principe ? C'était
en fait c'était 4 candidats passés devant un jury, dont Laurent Ruquier. Ils avaient des notes et si t'as assez de notes, si t'as la moyenne, tu peux revenir la semaine d'après pour un autre sketch, une espèce de grande compétition de l'humour et tu dois tester un sketch sur un thème imposé. Hyper hardcore. Les premières semaines, nos potes, c'était vraiment les potes partent au front. On faisait, oh non, il y avait Christine Bérou qui avait fait une vidéo qui était géniale. On faisait, oh non, pas Nadia Rose. Tu vois, c'était hyper drôle. Parce que c'était terrible ce moment, c'était terrible. Et en fait, à un moment, donc ça, c'est le démarrage de l'émission. Puis d'un coup, l'émission, elle fait sortir des gens. Il y a des gens qui deviennent hyper connus et tout. Et donc tous les producteurs se disent, il faut que mon artiste fasse ça parce que
aille dans la compétition.
Parce que les tournées, les salles, machin, nanan, tu vois, il y avait tout un truc. Donc moi, mon producteur, il me dit, faut y aller. Je me dis, mais moi, je suis pas attirée par le truc, je le sais, tu vois. Bon élève, j'y vais avec mon Grégoire, on écrit un texte et tout, et je passe et c'est un cauchemar. C'est moi la compétition, le challenge, le jury, enfin c'est que des mots clés qui ne me booste pas, je m'éteins. Pour te dire, quand je répétais, j'étais moins bonne à la fin de la répète qu'au début, tellement le challenge me bouffe de l'intérieur. Je passe, je me fais défoncer pour je sais même plus quelle raison, bref. Et en fait, en sortant, je me dis, mais c'est quoi? Mais plus, je pouvais revenir, j'avais eu la moyenne. Je dis, mais jamais je reviens. Mais moi, vivante. Mais je m'étais dit, je préfère jouer toute ma vie à la Comédie des Trois Bornes, qui est une toute petite salle, que d'être connue grâce à cette émission, en vivant ça chaque semaine. Et mes potes qui faisaient le truc me disent, il faut que tu continues, hein, tu sais, nous aussi, hein, au début, c'était dur. Je dis, mais jamais de la vie entière. Mais jamais, regarde-moi, j'ai chialé tout ce que j'ai pu. On dirait que je me suis fait larguer. J'étais horrible, horrible. Et j'ai joué le soir même, je jouais au point virgule. Putain, mais j'ai tellement kiffé. Je me suis dit, putain, mais c'est ça, en fait. Ma vie, c'est d'être là, à ce moment-là, devant des gens. C'est pas... Et ça, tu vois, cet appât du gain, il peut faire mal, quoi. Je me suis respectée. J'ai pas pu. Je sais qu'il y a d'autres gens qui l'ont fait, qui en ont souffert.
T'as écouté, en fait.
Je me suis dit, dans ma vie professionnelle, je m'écoute. mais voilà, oui, je me suis écoutée. Mais profondément, quoi. Donc, non, En fait, c'est. Moi, je dis toujours, si on te dit pour. Si tu te dis pour toutes ces raisons, pour tout l'or du monde, je le ferai pas, en fait. C'est-à-dire que toutes les raisons, c'est des raisons, c'est dans ta tête. Mais dans ton cœur, qu'est-ce qu'il y a, quoi? Ça, c'est dur. C'est dur à faire. Quand il y a beaucoup d'argent, quand tu vois, parfois, ça vaut pas le coup.
Et le meilleur conseil qu'on t'ait donné?
Le meilleur conseil, il y en a un de mon grand-père et un de ma grand-mère. Le conseil de mon grand-père, mes grands-parents, c'est vraiment la confiance dans la vie. Mon grand-père, il m'a dit une fois, je lui disais, tu sais, Pépé, j'ai de la chance, les gens, ils veulent bien travailler avec moi. Parce que, effectivement, je trouvais que avant d'être connue, hein, vraiment, tu vois, j'avais un trou, il y a quelqu'un qui m'appelait pour une pièce, toujours un truc. J'ai été hôtesse au Théâtre de Paris parce que à l'école on m'a proposé l'entretien. Mais tu sais, c'était au moment où je disais ouais, faudrait peut-être que je trouve un job. Paf, le truc arrive, tu vois. Et je lui dis ouais, tu te rends compte, j'ai de la chance, les gens ils veulent bien travailler avec moi. Et il me dit mais c'est pas de la chance, Bérangère. Il me dit en fait, si t'étais toute pourrie, personne ne voudrait travailler avec toi. Donc dis-toi que c'est grâce à toi. Ça, ce jour-là, ça a changé mon... Tu sais, les gens disent, ah oui, il faut beaucoup de chance dans ce métier. Ben non, en fait. Si je suis vraiment pourrie à l'intérieur, que et la chance, c'est pas ça, quoi. C'est toi qui crée. En fait, t'es moteur de la chance. Donc ça, ça a été un truc de fou. Et ma grand-mère, elle dit toujours, ce qui doit se faire, se fait. Et ce qui doit se faire, se fait, c'est... C'est-à-dire que tu fais un casting, machin, tu l'as pas, bah, ce qui doit se faire, se fait. Tu veux un appart, tu visites, machin, tu poses ton dossier passe pas. Ce qui doit se faire, se fait. Ça veut dire que tu dois pas être là. C'est pas, tout est parfait, en fait. Au lieu de t'énerver sur le truc et de te dire, ouais, mais pourquoi? Alors, des fois, c'est dur hein, d'accepter. Moi, j'ai déjà visité un appart où je me suis dit, putain, les boules. Mais ce qui doit se faire, se fait. Et derrière, ça se fait autrement. Et finalement... Et si tu regardes bien, à chaque fois, tu dis, ah ouais, en fait, du coup, j'ai pu faire ça. Tu vois, comme dans ton parcours, toi.
Oui, mais c'est un excellent set de conseils. C'est celui de s'approprier ses victoires et de relativiser les échecs qui finalement
ouais,
ne sont
ça
pas.
Ça n'a rien à voir avec
pas
toi,
de toi, en fait.
Ouais.
Qui sont...
c'est voilà. Il y a un truc où il faut être actif, c'est dans ton être, donc, c'est-à-dire ta bagnole. T'es ton véhicule dans la vie et t'es ta propre bagnole. On fait un contrôle technique pour les bagnoles. Donc regarde ce qu'il y a à l'intérieur de ta caisse. Et après. Suis la route, mais il faut un peu de maîtrise et un peu de lâcher prise. C'est un dosage difficile, mais on va y arriver.
On va y arriver, ouais. Et tu sais, quand on parlait juste avant de réussir à s'imposer, à être soi, sans renier qui on est, et on parlait de la difficulté de faire ça. Et je pense que c'est en multipliant les exemples et en essayant et en travaillant. Et en fait, c'est à travers les meufs comme toi, les exemples comme toi, qu'on va finir par réussir à inventer nos propres modèles et casser le mur là, de la deuxième division.
Mais oui, parce que au fond, mon parcours m'a pas empêchée en tant que femme de réussir. À aucun moment. Enfin, oui, il y a des problèmes de perception, de comment on te voit en tant que femme, comment on essaye de te ranger dans une case. Mais ça, c'est que les gens qui font leur truc. Si moi je veux être une femme libre sur scène, je suis une femme libre, je suis en France, je dis ce que je veux, quoi, tu vois. Donc c'est juste être à sa place et dans son être, et voilà, homme ou femme, ce que tu veux, c'est juste à ta place, quoi.
Merci beaucoup, Bérangère.
Ah, merci à
J'ai
vous. Merci
tellement,
à toi.
Tellement hâte de voir ton prochain spectacle.
Ah ouais, non, moi aussi. Bon, faut vous patienter un peu. Hein. Je me vise à un Paris septembre 2019. Donc,
ok.
Bon. Mais ouais, j'ai hâte aussi.
Et en attendant, on peut te retrouver à l'affiche de L'école est finie.
Oui.
Qui sera en salle le 11 juillet et que je recommande. En fait, je pense que c'est un film qui est tellement drôle et très touchant. Et on a tous eu une prof comme ça.
Ouais.
On a tous un souvenir de prof marquante.
Ça me fait plaisir.
Et voilà, enfin, tout. avec tout ton énergie, tout ton humour.
J'ai les miquettes pour cette sortie. Merci Clément.
C'est trop cool, vraiment. Bravo okay. pour tout ça. Merci beaucoup.
Merci, merci à toi.
Sois gentil, dis merci, fais un bisou. C'est fini pour cette saison. Merci beaucoup d'avoir écouté. Merci pour tous les messages que j'ai reçus. Merci pour les étoiles et les commentaires auxquels je n'ai pas pu répondre. Merci. Grâce à tout cet amour, tout ce soutien, je suis plus motivée que jamais pour faire une deuxième saison de Sois gentil, dis merci, fais un bisou dès la rentrée. Je te donne rendez-vous en septembre. Abonne-toi à ce podcast si tu veux être sûr de ne pas rater les nouveaux épisodes. Au cas où je changerai de jour ou des rythmes, parce qu'on sait jamais, la vie est faite de surprises. Un grand merci à la Maïf pour son soutien et rendez-vous sur leur site internet pour te renseigner. Avoir une bonne assurance, c'est important. Et si tu n'y comprends rien, pas de panique, des conseillers et des conseillères sont à ta disposition. Voilà, je te souhaite un excellent été et à très bientôt sur Mademoiselle. Et si je te manque, tu peux me retrouver sur Instagram. @clem_bodoc. À bientôt.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.